longitude 181.
La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka.
Bonjour, dans la continuité de cette série de chroniques et du film Au nom du requin, je vous propose aujourd'hui d'examiner un autre sujet relatif aux requins en général, leur nourrissage. Le nourrissage est l'objet d'une polémique entre plongeurs ou entre clubs de plongée. Pour les uns, il est incontournable pour rencontrer les requins. Pour d'autres, le nourrissage est incompatible avec une pratique sécurisée de la plongée, car il modifie le comportement des requins habitués à trouver une nourriture facile. Enfin, du point de vue du respect de l'animal sauvage, le nourrissage est une forme d'apprivoisement pour mieux contrôler le requin, ce que nombre de passionnés du monde sauvage ou de la nature se refusent à cautionner. Mais il y a nourrissage et nourrissage. En effet, pour les plongeurs initiés, le nourrissage prend diverses formes. Sont-elles toutes condamnables? Comment s'y retrouver dans toutes ces manières de procéder? Car elles sont vendues aux touristes plongeurs, tels qu'aux Bahamas, où les touristes sont invités à voir des shows organisés de requins nourris à la main. Ou encore en Afrique du Sud, où au préalable d'une plongée requin garantie, on déverse une centaine de litres d'une soupe plus ou moins liquide de poisson. Pour évoquer ces sujets, j'ai demandé à Éric Cluat, biologiste marin, spécialiste des requins, de nous donner quelques éléments pour nous faire une opinion sur ce sujet toujours délicat. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors, le feeding, c'est quoi en fait ?
Alors le feeding, premièrement, c'est une terminologie anglo-saxonne qui veut dire nourrir. Alors, pour la traduire, on parle de nourrissage artificiel et ça consiste à quoi ? Ça consiste pour des plongeurs qui ont envie de voir des requins, mais d'être sûr de voir des requins, puisque vous savez qu'en plongée autonome, on a une durée limitée, souvent de 45 à 50 minutes, une heure maximum. Donc être sûr à ce moment-là de voir des requins à un endroit donné. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On utilise, je veux dire, l'appétit entre guillemets des requins. Alors il y a plusieurs types de feeding en fait, qui vont, je dirais, presque du plus simple un petit peu au plus compliqué, et vous allez comprendre pourquoi. Le plus simple, c'est ce que les anglo-saxons appellent le chumming. Alors le chum en fait, c'est une sorte de soupe dans laquelle on a fait macérer des têtes de poisson, et donc c'est finalement très liquide, ce sont des particules, et ça, donc on le met dans l'eau, on attend que le courant disperse ça, et c'est quoi? C'est un signal olfactif. En gros, on joue surtout essentiellement sur l'odorat. Ce sont des particules dont finalement le requin, il a une odeur mais il n'a rien à manger. Ensuite, un petit peu plus agressif ou invasif, il y a le baiting. Le baiting, c'est quoi? Le bait en anglais, ça veut dire appât. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un appât, c'est-à-dire on prend une tête de thon, on l'attache à une corde et on s'en sert sur le plan olfactif là aussi, mais aussi visuel, puisque ce ne sont plus des particules mais une tête. Et donc là, le requin a les deux stimuli, à la fois olfactif et visuel. Et comme c'est quelque chose qui est très alléchant pour lui, il va s'approcher, il va essayer d'attraper la tête. Et on voit ça souvent avec le requin blanc en particulier. Alors ensuite, dans le baiting, il y a aussi des possibilités. C'est soit de libérer la tête et de la donner au requin, soit de ne pas la donner. Mais il y a surtout une troisième type, je dirais, de feeding, qui est le feeding vrai, où là, carrément, on peut utiliser aussi des têtes, mais on les donne carrément à l'animal. C'est-à-dire, en gros, on nourrit l'animal. Voilà. Alors, dans mon laboratoire, donc au Criob, je travaille depuis 15 ans sur les effets du feeding. C'est-à-dire, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le feeding, finalement, n'interfère pas négativement, justement, sur ces animaux. Et c'est-à-dire, j'insiste bien là-dessus, on se place du point de vue de l'animal et pas de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert en 15 ans? On a découvert, si vous voulez, que oui, il y a un effet, effectivement. Il y a ce qu'on appelle un effet d'habituation, c'est-à-dire que ça va faire baisser un petit peu la garde aux requins. Ils vont avoir tendance à s'approcher plus des hommes. Des effets, des fois, de sensibilisation qui sont un petit peu plus agressifs. C'est-à-dire que quand vous allez arriver pour nourrir vos requins, le seul bruit du moteur va attirer les requins. Donc tout ça, c'est évidemment très artificiel. Ceci étant, on s'aperçoit, et il faut être clair là-dessus, on s'aperçoit que ça ne concerne finalement qu'une minorité d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a des seuils, comme on aurait pu le croire, qui ne sont pas forcément franchis d'irréversibilité. Et pour faire simple, la dernière étude qu'on a en cours en Polynésie, une étude de 8 ans sur une soixantaine de requins-tigres, montre que finalement, 50% des occurrences, c'est-à-dire les fois où on voit un requin, c'est seulement 10% des animaux. Et si on rajoute encore 10%, c'est-à-dire qu'on est à 20% des animaux, on est à 85% d'occurrence. Ça veut dire finalement que 80% des animaux, ils s'en foutent. J'allais dire, ils s'en manquent du feeling. C'est-à-dire qu'ils préfèrent aller se reproduire quand il faut aller se reproduire, ou ils préfèrent aller se nourrir de façon naturelle quand ils en ont la possibilité. Bref, on montre par nos études que le feeling a un effet, mais qu'il pourrait être durable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par durable ? On entend l'idée d'éviter d'éviter certaines pratiques qui, elles, vont avoir des conséquences néfastes à court terme. Je pense en particulier au hand-feeding. Le hand-feeding, en anglais, ça veut dire main. Ben, ça consiste à quoi ? Ça consiste à organiser des balais. Alors, moi, je préfère dire même des shows, hein, avec une connotation un petit peu négative. Hein, parce que regarder les requins, ça ne suffit pas. Hein, il faut les faire, tout juste si on ne leur fait pas faire des cabrioles, hein, comme à ces pauvres dauphins dans les delphinariums. Et lorsqu'on fait du hand-feeding, ben, le requin a des capacités cognitives au-dessus de la moyenne, ça il faut le comprendre, hein. Et ben, il apprend vite, il n'est pas bête, il apprend que ce truc-là qui émet des bulles et qui a des appendices supérieurs, ben, à l'extrémité des appendices supérieurs, a fortiori si on ne porte pas de gants, ben, y a souvent à manger, c'est-à-dire des têtes de poisson, et quoi de plus ressemblant à une tête de poisson qu'une main de plongeur, sachant que par ailleurs, il faut le savoir, et les gens l'ignorent souvent, les requins ont une vision monochrome, c'est-à-dire ils voient en gris et blanc, donc vous voyez d'où vient la confusion. Et justement, il y a ce que j'appelle des morsures de confusion, c'est-à-dire que les requins vont quelque part mordre la main du plongeur. Alors non pas pour se nourrir sur le plongeur, comme on pourrait le croire, et encore une fois, incriminer ces salauds de requins. Non, c'est simplement parce qu'ils croient manger du poisson. Bref, nos études, elles montrent quoi ? Elles montrent que le feeding, s'il est fait, peut être durable, qu'il est très important d'un point de vue scientifique, puisqu'il nous permet d'étudier les requins, mais qu'on a tout à fait le droit d'être contre, mais si on est contre, et c'est recevable, c'est sur le plan idéologique.
Bien, merci Eric pour toutes ces informations scientifiques et qui nous permettent effectivement de mieux comprendre toutes ces différences. Au revoir.
Avec un énorme plaisir.
Cette chronique et la série de chroniques au nom du requin est disponible sur le site www.longitude181.org.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.